Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Discrimination à milieu professionnel, on en parle aujourd'hui. Comment se comporter lorsqu'on est victime de cela? Polydor Tangeli, vous êtes expert en psychologie du travail. Bonjour. Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. On vous retrouve dans quelques instants. Vous voulez participer à ce programme? Le standard est déjà ouvert. Composez le 099-706-99-41. Comment réussir l'élevage des charançons appelés mpossé? Vous aimez bien manger les mpossé? Eh bien, sachez qu'on peut les élever et puis ça peut aussi vous rapporter, ça peut être des bonnes affaires. Françoise Loukadi Matala, qui est présidente de la ferme pour les orphelins, sera notre invité à partir de 11h05 heure de Kinshasa. Voilà, elle sera là avec Jonathan Chibangu Mutombo, qui est biologiste et manager de la ferme. Pour participer à cette émission de la vie au quotidien, le standard est déjà ouvert. Composez le 099-706-99-41. Écrivez-nous à service@radiocapi.net. Tati Mapoukou assure la coordination de cette émission. Feza Julie est à la réalisation. Jean-Noël Mokondo assure la mise en onde au micro. Jody Daniel Kachama, bienvenue à tous.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Capi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Capi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Capi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Les cas de discrimination sont souvent signalés dans les entreprises tant publiques que privées. L'employeur traite différemment ses salariés en fonction de plusieurs critères. Ça peut être le village d'origine. Si vous êtes du même village que lui, vous avez un traitement préférentiel. Ça peut être en fonction du sexe, de la grossesse, du nom, de l'état de santé, de l'âge, de l'ethnie, de la religion et autres. Pour les experts, il est important de lutter contre cela afin de créer un environnement de travail équitable, inclusif et respectueux où tous les employés sont traités avec dignité et ont les mêmes opportunités. Comment lutter contre cette pratique et que faire lorsque vous êtes victime de la discrimination professionnelle? Polydor Tangeli, vous êtes expert en psychologie du travail. Bonjour. Bonjour Polydor. Bien, Polydor Tangeli, comme je le dis, est expert en psychologie du travail. Avec lui, on va échanger dans quelques instants sur ces thèmes importants. Vous êtes aussi victime de la discrimination là où vous travaillez. N'hésitez pas, appelez-nous pour partager votre expérience. Dites-nous comment ça se passe et comment vous arrivez à gérer cela, à gérer cette situation des injustices, la discrimination au travail, là où vous évoluez. Voilà, certains sont traités, ont des traitements de faveur, sont bien traités parce qu'ils sont peut-être de la même tribu que le manager, ou soit ce sont ses amis, ou... Voilà, il y a plusieurs critères qui sont à la base de la discrimination en milieu professionnel. Le standard est déjà ouvert, composez le 099-706-99-41. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net et laissez un commentaire sur la page Facebook de l'émission au Capi Service. Discrimination en milieu professionnel, comment se comporter, qu'est-ce qu'il faut, comment réagir. Polydor Tangeli, vous êtes psychologue de travail, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à tous les auditeurs. Je me fais écouter?
Oui, on vous écoute très bien, on vous entend très bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on entend par discrimination en milieu professionnel?
Bon, vous l'avez si bien dit dans votre introduction, la discrimination au travail ou en milieu professionnel est un choix préférentiel de la part de la hiérarchie dans le traitement catégoriel des travailleurs, et en faveur ou en défaveur d'une autre catégorie. Donc, il s'agit d'un traitement qui n'est pas équitable à l'œil nu. Il y a manque d'équité, il y a de l'injustice, si on peut le dire de manière vulgaire. Voilà ce qu'on peut comprendre par la discrimination. Et on traite les gens par rapport à leur catégorie, par exemple le sexe, comme vous l'avez dit, la race, surtout dans certains pays. Mais il y a aussi l'origine ethnique ou les niveaux intellectuels, le niveau d'instruction. Donc voilà beaucoup d'éléments de la catégorisation sociale qui entrent en jeu, mais de manière préférentielle, c'est-à-dire assis sur une certaine subjectivité de la hiérarchie professionnelle. Voilà comment je peux dire de manière aussi aisée ma compréhension de la discrimination en milieu professionnel.
Alors, vous pouvez donner quelques exemples fréquents qu'on retrouve en milieu professionnel, des exemples de discrimination.
Bon, on vient de faire sortir le gouvernement, de publier la liste des membres du gouvernement, et je suis nommé ministre des tortues au ministère qui a en charge les tortues. Dès que j'y arrive, le premier réflexe, c'est de savoir d'abord qui de mon territoire est dans ces ministères. Vous voyez? Qui de mon territoire est dans ces ministères? Avec qui nous avons étudié? Quelles sont les jolies femmes?
Vous voyez? Oui.
Quelles sont les jolies femmes? Donc, vous voyez, c'est trop subjectif. Alors que, objectivement, c'est la compétence qui devait compter. C'est la compétence qui devait compter en milieu professionnel, puisque les employés sont venus donner de quoi ils sont capables. Et ils doivent être traités par rapport à ce qu'ils ont, par rapport à leur apport au sein du travail, par rapport au poste qu'ils occupent. Alors, celui qui a une discrimination peut commencer à instaurer un réseau informel où il se passe de ce qui est formel, c'est-à-dire des job descriptions, des responsabilités respectives à chaque personne ou catégorie, et à faire un abus d'usage du pouvoir en utilisant des personnes non attitrées à cette fin. Et là, ça a comme conséquence des frustrations, ça a comme conséquence des relâchements qui peuvent amener au burn-out. Et c'est contre-productif pour l'entreprise, puisqu'au fait, la personne qui est employée va être dépersonnalisée. J'ai dit la victime de la discrimination, la personne va être dépersonnalisée, il ne saura pas produire le meilleur de lui-même. Et même celui qui est bénéficiaire de la discrimination, c'est-à-dire qui en tire les avantages, lui ne sera pas à sa place. Donc on n'aura pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut.
Oui.
Et cet état des choses va faire à ce que il y a un faible rendement.
Il y a un faible rendement.
Le favoritisme, donc beaucoup de conséquences, et c'est vraiment une peste lorsque nous sommes dans une entreprise et que il existe effectivement une discrimination à l'intérieur. Mais hélas, la science a quand même essayé de positiver la discrimination. Et on parle aujourd'hui de la discrimination positive, qui revient à dire que pour certaines catégories qui d'emblée sont défavorisées, on peut leur accorder une faveur préférentielle. Une faveur préférentielle de sorte à amener un certain équilibre social au sein de la communauté professionnelle.
Donc, bien. Oui, d'accord. On va y revenir tout à l'heure. On va le temps d'accueillir Jean-Claude qui nous appelle de Kindu. Bonjour.
Bonjour, cher ami Jody. Bonjour aussi à mon ami Polydor Tangeli.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la discrimination professionnelle?
Oui, en fait, moi-même, je suis en train d'observer sans mon vouloir que la discrimination est devenue mode de gestion. Et comme question au psychologue, c'est comment mettre fin à cette situation qui est liée d'homicide dans presque toutes les entreprises et même au sommet de l'État, même au niveau du gouvernement, même au niveau des différents parlements. Donc, si toute l'étendue de la République, nous sommes en train de constater que dans toutes les entreprises, toutes les sociétés, la discrimination est là, avec santé et avec force. Merci.
Bien, par exemple, Jean-Claude, là-bas à Kindu, est-ce que vous avez un exemple précis, un cas de discrimination?
Oui,
Oui, allez-y.
Même au niveau, j'ai dit d'abord, par exemple, au niveau de l'Assemblée provinciale, dans un cabinet quelconque, même au niveau du gouvernement provincial, on verra que, comme l'invité a dit, lorsque le ministre arrive ou lorsque le député arrive, la première des questions est celle de savoir si dans cette commission ou les membres qu'ils ont trouvés dans le cabinet, combien sont de sa tribu, combien sont de sa communauté, combien sont de son avenue, de son quartier. Donc, les exemples sont les gens, et je dis, pour vous dire, peut-être que c'est toute une Bible là.
D'accord. Merci à Jean-Claude de Kindu. Et il semble que dans certaines entreprises aujourd'hui, les gens sont recrutés en fonction de l'appartenance politique. Vous êtes de tel ou tel autre parti politique, eh bien, vous êtes les bienvenus. Et vous avez un traitement différent des autres. Polydor Tangeli.
Oui, effectivement. La solution au problème de discrimination a déjà... En fait, il y a une solution au départ lorsque l'entreprise est créée. Il faut comprendre l'entreprise comme une communauté sociale. Et toute communauté sociale est régie par un contrat social auquel adhère chacune des parties, notamment l'employé et l'employeur. Alors, c'est à travers les statuts, à travers les différents textes qui régissent l'entreprise pour que ça soit une propriété commune à chacun des membres. Et là, la solution, c'est déjà d'avoir un texte qui régit l'entreprise sans favoritisme, puisque lorsque le texte lui-même est muet en matière de choix de l'un ou de l'autre, en matière d'occupation de tel poste ou tel poste, il y a une voie qui est ouverte à la discrimination. Donc, la première des solutions, c'est d'objectiver la cohésion et l'esprit communautaire à travers un texte qui impulse la vie en commun et qui se cristallise à travers le contrat social. Et si on est dans une entreprise où il y a beaucoup d'ouverture, la personne peut se permettre tout. Et l'occasion ici d'évoquer les cabinets politiques, par exemple. Les cabinets politiques, par rapport aux entreprises, par exemple les organismes internationaux ou d'autres entreprises, il y a certains critères. Mais lorsque dans un cabinet, on laisse au ministre le choix d'amener celui qu'il veut, sans qu'il y ait une hiérarchie, une programmation de job description de celui qui peut être conseiller, de celui qui peut être chargé des missions, de celui qui peut être qui que ce soit. Donc, il y a une ouverture. Donc, la solution en amont, c'est que lorsqu'on crée une structure et qu'on veut employer les gens, il faut qu'il y ait des textes qui objectivent le choix et le traitement des personnes. Et la deuxième étape, la deuxième des solutions, c'est l'appropriation. Voilà. Il est regrettable de constater que beaucoup de personnes travaillent dans certaines entreprises, mais ils ne connaissent pas les voies et procédures y afférentes par rapport au choix, par rapport à ceci, par rapport à cela. Et lorsqu'on est dans une ignorance, on devient victime de son ignorance puisque celui qui connaît manipule les vides, les ouvertures qui existent. Il faut une appropriation. Si nous questionnons beaucoup de travailleurs dans l'administration publique, est-ce qu'ils connaissent
le règlement?
Le règlement, est-ce qu'ils le maîtrisent? Puisque même le même règlement vous donne droit à un recours lorsque vous êtes lésé. Et le même règlement vous indique les instances qui peuvent répondre à votre recours. Puisqu'au fait, lorsque on sent que vous êtes ignorant des textes, on vous manipule à bon escient. Voilà le problème qui, une des solutions que nous pouvons mettre à la portée de ceux qui nous écoutent pour contribuer à la lutte contre la discrimination. Et au fait, la défaillance de certains services de ressources humaines qui sont tellement faibles et qui deviennent la caisse de résonance de l'employeur. Et l'employeur utilise certains services des ressources humaines pour satisfaire leurs appétits égoïstes, alors qu'en réalité, les textes qui organisent les entreprises ont bénéficié avant leur utilisation d'une, comment on appelle ça, d'un acte notarial qui prouve qu'effectivement, au sein de ces textes, il n'y a pas la discrimination qui est encouragée, il n'y a pas l'injustice qui est encouragée. Mais hélas, est-ce que le service des ressources humaines active ces textes en bon escient? Est-ce qu'ils servent effectivement de conseiller à l'employeur pour que l'employeur n'arrive pas à faire la discrimination? Au sein des entreprises, nous avons par exemple les services d'inspection qui doivent contrôler en amont, tout comme en aval, certaines décisions qui sont prises. Et on voit les inspections agir en aval plutôt qu'en amont. Puisque si les garanties d'action en amont étaient mises en place, ça pouvait servir de mesure, répressive aux autorités qui sont qui ont un élan de discrimination très prononcé.
Bien, bien, Polydor Tangeli. D'accord, oui. On va accueillir Ismaël Mumpoi de Lubumbashi et je reviens à vous tout à l'heure. Nous parlons aujourd'hui de la discrimination professionnelle, discrimination en milieu de travail. Comment se comporter face à cela? Ismaël Mumpoi, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kachama, bonjour à M. Polydor.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur les sujets du jour?
Bon, ce que nous pouvons savoir aujourd'hui, les Congo ont adopté le monde tribal et la discrimination comme le vrai mode de vie. Vous êtes dans de grands centres-villes tels Kinshasa, Lubumbashi, où Kinshasa n'est pas plus concerné. Ici où nous vivons à Lubumbashi, je vous dis que tu es une qualité excellente. Je vous dis, tu ne peux pas avoir un emploi. Ou si vous y êtes, tout ce que tu peux faire comme l'excellence de votre travail, on va vous coller une qualification de votre tribu. Vous êtes Kassaïens, surtout celles-là, on leur dit Kassaï. Vous êtes Moulouba, on te dit Moulouba. Je vous dis, il est difficile. Ou vous faites votre examen, vous êtes satisfait, mais pour avoir l'accès à cet emploi-là, on te demande tu es de quelle tribu. Je pense que le fait Mobutu avait fait une chose dont les originaires ne pouvaient pas diriger chez eux. Cela avait quand même aidé les gens de vivre ensemble, de travailler, de compter sur la compétence. Et aujourd'hui, la plupart des emplois que nous avons, ce sont des emplois privés, où chaque personne qui est là, où vous avez une école, au lieu d'être promoteur, c'est toi qui as la caisse là. Ou tu prends sur les postes de responsabilité, ce sont tes frères. Si on prend une personne d'une autre tribu, qui n'est pas la vôtre, mais directement, si vous fauchez, même tu rien, même quelque chose de rien là, ce sont des tribus, des consorts là, on ne tient pas compte de cela. Plus aussi que nous vivons presque à la frontière, nous avons des divergentes langues qu'on parle par les gens. C'est là où il y a un grand problème. Soit tu maîtrises tes matières, mais tu ne peux pas avoir un emploi. Pourquoi? Parce que votre tribu, votre langue, votre personnalité, votre état, c'est ça ce qui fait plus de problèmes. Mais la question que je pose à M. Tangeli, c'est de savoir, on peut faire, comment faire le parallélisme entre la discrimination et le tribalisme? S'il en est ainsi, comment surmonter ces difficultés pour que tous ceux qui travaillent dans des milieux professionnels puissent se sentir à l'aise et épanouis pour tout ce qu'ils vont faire? Merci.
Bien. Merci Ismaël Mumpoy pour ce témoignage. Certaines personnes sont engagées par rapport à leur appartenance tribale, par rapport au nom. Voilà, si vous avez un nom qui n'est pas du coin, alors vous êtes d'office victime de la discrimination. On va accueillir Godé Kidiongo depuis Kikwit. Bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à l'invité qui se trouve dans notre studio.
Quelle est votre question, Godé Kidiongo?
J'ai vraiment une petite d'abord témoignage avant d'aboutir d'abord à ma question. Ici dans la province du Kivu, vraiment, ce que nous avons constaté, c'est quoi? C'est la discrimination, même au niveau politique. Comprenez-vous d'abord, messieurs les journalistes, même au secteur des transports, ici dans notre province, Kwilu précisément, vraiment le secteur des transports, mais c'est pour les palous, les partis politiques palous. Les palous vers les années 2012, 2015 jusqu'à 2021, mais pas moyen. Donc le secteur des transports, c'est comme si Didier Mazeng était là, l'autre qui était là, mais pour aller là, mais il faut que tu sois membre de Palou avec une carte de Palou. C'est ça la discrimination. Je voulais un peu demander. Donc la fois passée à la province dans notre chef Sile Bandundu, il y avait des disputes. Le procureur avait fermé même le bureau du secteur du transport à cause de cette discrimination. Mais laissez-moi demander à l'invité peut me dire quelle différence y a-t-il entre discrimination et tribalisme? Deuxième préoccupation, dans quelle partie du code se trouve la discrimination? L'invité aura le temps de nous répondre.
Merci. Clément Ndiaye, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour aussi à l'invité de la radio Capi.
Quelle est votre question, Clément?
Il est vrai que la discrimination prend l'ampleur sous différentes formes aujourd'hui dans les services de l'État, que ce soit les organismes nationaux. Mais je voudrais juste demander à notre invité, il s'avérait qu'il y a deux fois que nos dirigeants ou qui sont nos chefs de division, les DG ainsi de suite, les DP, ils ont installé un système là, un système d'opération et retour, c'est-à-dire il y a une mission ou des fois il y a un atelier, une formation quelconque. Tu vas là-bas, si c'est pour deux jours, pour trois jours, c'est-à-dire vous partagez, lui a un jour, si c'est deux jours, il a un jour, vous avez aussi un jour, si c'est cinq jours, vous avez deux et demi, ainsi de suite. Mais s'il arrivait que vous êtes invité à votre nom, à votre poste, ainsi de suite, il veut toujours que vous puissiez toujours aller de cette façon-là. Mais il y a des fois qu'on résiste un peu, qu'on voit que non, ce n'est pas un système qui existe dans les services de l'État, ainsi de suite. Mais à un moment donné, il vous trouve vraiment très, très ferme là, très logique. Ils commencent à vous éviter, ils utilisent ceux qui sont le plus faibles là, c'est-à-dire ils vont au retour, ils se partagent ainsi de suite. Alors c'est pourquoi je voudrais juste demander à notre invité, comment un système pareil peut devenir, ça devient un principe ou bien une loi dans l'administration de l'État pour que nous puissions tous nous y adapter, afin que nous puissions gagner tant soit peu ce qui nous mérite vraiment. Merci vraiment, c'est ça, ce qui était ma préoccupation.
Bien, merci. Docteur Anissé qui passe à bonjour.
Bonjour. Bonjour à l'invité et à tous les auditeurs.
Docteur, oui. La discrimination en milieu de travail, oui, allez-y.
Oui, Jody, la discrimination en milieu de travail, en milieu professionnel, je voudrais demander à notre interlocuteur, là, celui qui intervient, c'est un très bon sujet, mais s'il vous plaît, qu'il élabore aussi sur la forme de la discrimination qui est à promouvoir en lieu de travail, en milieu de travail. Il y a aussi une forme de discrimination que
positive.
L'État, que nous étions... Oui,
la discrimination positive.
Qui est recommandée. Voilà, exact, la discrimination positive. Il faut qu'il en parle aussi. Quand nous étions au Parlement, on poussait sur cette discrimination positive. C'est-à-dire, vous prenez à compétence égale entre, surtout en cette période où nous parlons de la masculinité
positive,
féminine, positive. Donc, la discrimination positive est aussi une forme à promouvoir, c'est-à-dire à compétences égales, il est recommandé de prendre une personne de sexe opposé, par exemple une femme. Actuellement, à compétences égales entre un homme et une femme dans notre pays, pour arriver à rééquilibrer, on a besoin de cette discrimination positive. Il faut qu'il en parle aussi, parce que c'est très très important. Sinon, les gens sortiront de cette émission seulement avec la connotation négative de la discrimination sexuelle, sociale, tout ce qu'on est en train de dire là, mais de façon négative. Merci.
Merci, docteur Anissier. Anissier, d'ailleurs, l'invité avait déjà parlé de cette discrimination positive en milieu professionnel. Bien, Polydor Tangeli, vous avez la parole.
Merci. Juste pour vous paraphraser, puisque j'en avais déjà parlé. Toute discrimination n'est pas mauvaise, hein. Et nous avons dit que la discrimination positive, on en a besoin pour un équilibrage en milieu social. Et on peut vous faire passer les tests, et lorsqu'on se rend compte que parmi les 5 directeurs, 3 sont par exemple de tels coins, et si le 4e et le 5e qui viennent sont du même coin, on peut puiser jusqu'au 3e ou au 4e qui soit d'un autre coin. Donc c'est ça la discrimination positive. Et ça doit être objectivé en amont pour que ça ne fasse pas objet d'une certaine subjectivité. Et c'est là où il faut questionner la discrimination positive dont il est question dans beaucoup d'entreprises. Puisque lorsque cela n'est pas objectivé en amont, en disant par exemple, lorsqu'on a telle catégorie de personnes qui obtiennent les compétences égales, les résultats qui sont égaux, nous pouvons choisir telle personne à telle condition. Voilà, ça doit être objectivé. Je reviens à la question de tribalisme, ainsi de suite. Au fait, le tribalisme n'est qu'une sorte de discrimination, hein, une forme de discrimination en milieu professionnel, puisqu'au fait, le facteur de choix préférentiel est la tribu, et la langue, et la nation, et la religion, ainsi de suite. Ce n'est qu'une forme de discrimination. Alors, beaucoup des questions qui ont été posées ici touchent aux antivaleurs que nous sommes en train d'observer présentement en République démocratique du Congo. Mais il faut dire que nous sommes en face d'une population, d'une génération qui a besoin, je suis mal placé pour le dire en tant que psychologue, mais d'une sorte d'exorcisme collectif, puisque notre inconscient collectif a été empoisonné par certains antivaleurs que les dirigeants ont mis au devant au lendemain des indépendances. Puisqu'au fait, lorsque nos parents ont grandi vers les années 50-40 et même 60, on ne se distinguait pas par rapport aux origines. Ceux qui ont vécu dans des milieux cosmopolites comme Kinshasa, Lubumbashi, Bukavu, je ne sais pas moi où, mais ils se connaissaient uniquement par leur nom. Le tribalisme est venu à cause de la géopolitique qui a été choisie comme mode de gestion en insistant sur les origines. Et là, je crois, il y a un grand travail à faire de la part de nos dirigeants, avoir des dirigeants visionnaires qui doivent comprendre les dangers de la géopolitisation de la gouvernance de notre pays.
Oui, Polydor Tangeli, aujourd'hui il y a aussi un problème, la politique a envahi le milieu professionnel. Si vous êtes de tel ou tel autre regroupement politique, vous êtes traité différemment des autres, et ça peut détruire le climat de travail.
Oui, vous m'avez pris au mot, je voulais évoquer d'abord la géopolitique, où on dit, nous gérons par rapport à notre milieu d'origine. Donc, cherche ton origine pour aller gérer aussi là-bas, pour aller travailler là-bas. Et là, comme mode de gouvernance, ça crée une mutation négative dans l'inconscient collectif du Congolais aujourd'hui. Et il faut un exorcisme collectif de la part des chefs spirituels, de la part des psychologues sociaux, de la part des dirigeants, de sorte que nous revenions aux valeurs antérieures. Puisqu'au fait, lorsque vous allez en Europe, on peut peut-être les reprocher le racisme, mais on ne parle pas de tribalisme là-bas. On ne parle pas de régionalisme de manière aussi pointée
oui, Polydor.
Comme on le fait ici. Alors,
oui.
Revenir à votre argument sur la politisation, exactement. Les partis politiques doivent se limiter aux questions politiques. Ils ne doivent pas entrer dans la gestion au quotidien de la vie, notamment à travers l'administration, notamment à travers les entreprises publiques. Alors, une politisation à outrance de la gestion de la chose publique est aussi une sorte de discrimination. Pour autant que l'administration publique étant neutre, elle ne devait pas axer sa gouvernance sur les intérêts politiques, puisque les partis politiques ne suivent que leurs intérêts. Et là, ces mélanges-là expliquent tout ce que nos frères et sœurs sont en train de décrier. Donc, au-delà de ce que j'avais avancé comme avoir des textes solides et qui répondent aux standards internationaux, que nous ne respectons pas malheureusement, les maîtriser, les approprier, ce que les gens ne font pas, il y a un effort collectif au plan psychologique que le Congo, les Congolais dans leur ensemble, un sursaut collectif doit être fait pour qu'il y ait ces changements. Et je pense que l'impulsion doit venir tant de la base que de la hiérarchie.
Bien, nous parlons aujourd'hui dans Okapi Service de la discrimination en milieu professionnel. Comment se comporter face à ces genres de choses. Maître Omar Kigalo, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody, bonjour.
Bien, face à la discrimination en milieu professionnel, par exemple lors du recrutement, lorsqu'il faut donner des promotions, l'avancement en grade ou envoyer les gens en mission, on remarque que ce sont toujours les mêmes personnes qui sont favorisées et les autres non. Comment se comporter à ce moment-là? Est-ce qu'il y a, c'est possible d'aller se plaindre ou qu'est-ce qu'il faut faire? Quel peut être le comportement à adopter à ce moment-là?
Merci beaucoup, Monsieur Jody, pour votre noble question. Comme l'invité l'a dit, le travail ennoblit l'homme, il le valorise et assure son indépendance. Il doit être rémunéré et accessible à tous. Par rapport à votre question, nous sommes un état de droit, et l'état de droit comme référence cardinale le respect des lois qui réglementent tout secteur. Les secteurs du travail au Congo, les modalités d'accès au travail, les modalités de traitement sont bien réglementées. Dans le secteur public, nous avons une loi qui a été votée depuis 1981 et qui vient d'être modifiée le 15 juillet 2016, qui fixe les critères pour accéder, par exemple, à la fonction publique. Par rapport à tel ministère, il faut avoir quel titre. Malheureusement, on ne le respecte pas. Par rapport au secteur privé, nous avons le Code du travail qui a été voté en 2002 et qui vient d'être modifié en 2016. Si vous lisez ces deux textes, y compris les règlements d'entreprise de chaque société, on fixe de manière quelles sont les modalités pour accéder à un service. Aujourd'hui, nous déplorons avec l'invité la discrimination qui n'est pas fondée sur le tribalisme et le clientélisme. Prenons seulement le cas de la plateforme Union Sacrée. On a pris 9 mois pour mettre en place le gouvernement parce que certaines personnes qui travaillent depuis Mobutu ne veulent pas céder. Ce sont des cas comme ça que nous voyons, comme l'invité l'a dit, c'est un problème de conscience collective. On voit quelqu'un qui a été président de l'Assemblée nationale qui redevient deuxième vice-président, qui veut rester là. Il n'y a pas d'autre personne dans son parti politique. Lorsqu'on veut donner le nom des partis politiques, on prend seulement les présidents nationaux. C'est comme s'il n'y avait personne. Voyez la France. Marine Le Pen est présidente du Front National, mais elle propose Joseph Barbella pour être premier ministre. Quelle culture politique! Pour éviter contre cela, parce que vous m'avez posé la question, la première technique, c'est appliquer la loi. La loi sur le travail, et en matière publique et en matière privée, parle des rémunérations. On dit, dans la rémunération, nous avons le traitement qu'on appelle salaire. Il y a les frais de transport lorsque les travailleurs habitent plus de 5 kilomètres. Il y a les soins médicaux, les allocations familiales, les primes et l'assurance. Est-ce que tous les employeurs congolais, tant privés que publics, respectent cela? Non, si on commence à le respecter, il n'y aura pas de discrimination négative. Parce qu'il faut aussi noter que dans chaque secteur, il y a des classes. En matière des privés, par exemple, il y a les agents de première classe, de deuxième classe, de troisième classe, et leur rémunération tient compte de leur grade. Là, il n'y a pas de discrimination. Deuxième chose, il faut dénoncer, monsieur Georges. Ce sont des choses que nous déplorons par rapport au secteur privé. Il y a un service de loi qu'on appelle l'inspection du travail, qui a pour rôle de vérifier si au niveau des entreprises privées, on respecte les modalités de recrutement et les modalités de traitement. L'inspection ne fait rien et les gens ne dénoncent pas. Je viens des prédécesseurs qui a dénoncé au niveau d'une province là où les palous fait. C'est ça, quand on dénonce pas un mal, c'est qu'on l'adore. Au niveau public, il y a un service qu'on appelle aujourd'hui EGAP qui permet aux agents publics de dénoncer. Il y a des gens qui ont fait 10 ans sans avoir une promotion. Il y a des neveux, des oncles, des copines, des deuxièmes bureaux, des ministres qui sont avancés à grade rapidement, alors qu'en matière de fonction publique, il faut minimum 3 ans et avoir fait un bon rendement pour avoir une promotion. La dénonciation au niveau de l'inspection du travail, la dénonciation au niveau des ministères de tutelle permet, il y a même des juges, des tribunaux de travail, lorsqu'un travailleur privé estime que ses droits sont lésés, il peut saisir l'inspecteur du travail. Lorsqu'il n'y a pas attente, il va voir le juge du travail. En matière administrative ou publique, il y a le juge administratif. Lorsqu'un agent se rend compte qu'il a rempli le critère et qu'il n'a pas été levé, il peut dénoncer. Et enfin, j'ai fini par là, il faut qu'il y ait un contrôle régulier, comme l'a dit l'invité. Il faut que les inspecteurs du travail descendent commune par commune pour vérifier est-ce qu'à la radio Okapi, les conditions de travail sont respectées, est-ce qu'à Biwan c'est respecté, est-ce qu'à Masako c'est respecté, et les agents au niveau public aussi descendent, est-ce qu'au ministère tel, on a une discrimination en ciel ouvert où un ministère touche beaucoup et un autre ne touche pas. Voilà à mon avis, monsieur Joudi, ce qu'il faut faire pour lutter contre la discrimination, appliquer la loi qui a tout prévu, dénoncer les antivaleurs liées au tribalisme, et enfin que l'inspecteur du travail contrôle, sanction les entreprises, pourquoi même pas fermer, qui ne respectent pas la loi qui a tout prévu en termes de recrutement et de traitement.
Bien, merci Maître Metz. Lorsque vous dénoncez que l'employeur est au courant, que c'est vous qui l'avez fait, ça peut vous mettre en difficulté.
C'est aussi ça le problème. J'ai eu des cas comme ça en tant qu'avocat, un gars qui travaillait chez les Indiens, qui était victime de l'injustice. Je lui propose d'aller dénoncer à l'inspection du travail. Il dit, maître, si je dénonce, je vais perdre mon emploi. Alors que le code du travail oblige à l'employeur, lorsqu'après avoir étudié le dossier, si l'employeur a tort, on l'oblige de réintégrer les travailleurs et d'augmenter son salaire. J'ai connu un autre cas. Le travailleur a été victime d'un Libanais qui les paye $40 par mois, violant le SMIG qui est prévu à 3% par rapport à un travailleur. J'appelle les autres pour venir être en solidarité et témoigner. Ils ont tous eu peur. On a ce problème de peur qui fait que les gens ont peur de dénoncer. Si je dénonce, le travail le fera. D'où il faut d'abord un problème de sursaut patriotique et de conscience collective. C'est-à-dire enlever la peur et dénoncer. Ce sont des cas patents, monsieur Joly, que nous vivons au jour. J'ai un autre client qui a un centre de santé et qui a beaucoup d'abonnés, qui a beaucoup de partenaires. Un partenaire n'avait pas payé à la fin du mois. J'ai dit, il faut l'amener en justice. Il m'a dit, maître, Bangoto Baza, Libanais, ils sont solidaires. Si on a fondu mon corps, je perdais tout le marché. Donc, il y a un problème de conscience. Il y a un problème de prise en charge personnelle. Il y a un problème de conscientisation. Dire à la personne qu'il faut avoir le courage de dénoncer et que la loi vous protège. Si on enlève ces boucliers-là de peur, on aura fait œuvre utile.
Bien, merci à Maître Omar Kigalo. Nous parlons aujourd'hui, restez en ligne, nous parlons de la lutte contre la discrimination en milieu professionnel. En milieu professionnel, vous avez des questions, vous êtes victime de cela, n'hésitez pas à appeler au 099-706-9941. Polydor Tangeli, votre réaction par rapport à ce que Maître Omar nous a dit tout à l'heure.
Bon, en fait, je pense que Maître m'a suivi au début de l'émission. J'ai évoqué la problématique des textes qui sont élaborés, puisqu'au fait, qu'il s'agisse des statuts, qu'il s'agisse du code du travail, ce sont les principes généraux qui sont édictés. Mais au sein des entreprises, est-ce que ces textes ne donnent-ils pas des ouvertures pour que les gens en abusent? Ils tirent profit du vide qui est créé par les textes pour exactement poser des actes discriminatoires. Et là, c'est un premier problème. Au fait, il me rejoint lorsqu'il parle de la dénonciation, il me rejoint lorsqu'il parle de l'inspection, tout comme de l'IGAP, l'inspection générale de l'administration publique. Mais hélas, est-ce que beaucoup de nos travailleurs se sont appropriés le texte?
il n'y a pas appropriation de texte. Voilà, il faut qu'il y ait un certain civisme. Et je crois que c'est une des solutions pour l'exorcisme collectif, un certain civisme scolaire qui soit axé sur la connaissance de ses droits et devoirs. Puisqu'au fait, on a comme impression que l'homme congolais tend à cajoler les antivaleurs.
Polydor, un instant, Polydor, on va accueillir Rigobert de Colouisi. Bonjour Rigobert. Rigobert, bonjour. Il n'est plus là, allez-y.
Oui, on a comme impression que l'homme congolais a tendance à cajoler les antivaleurs qui ont élu domicile jusqu'à les convertir en valeurs. Suivez par exemple l'illustration de maître qui parle de cette personne qui dit non, je ne peux pas le faire pour telle raison. Oubliant que sous d'autres cieux, les gens réfléchissent en termes d'une porte qui se ferme et qui ouvre une autre porte. Ça veut dire, vous perdez votre emploi pour une cause noble, la nature va vous ouvrir une autre porte plus meilleure. Et ça explique le fait que quelqu'un peut travailler dans une administration durant une dizaine d'années, une vingtaine d'années, il n'a pas de promotion et il s'y accroche. Bon gré, mal gré. Et c'est au niveau de l'homme congolais qu'il faut changer des choses. Qu'on ne crie pas seulement à la victimisation, mais qu'on soit aussi acteur du changement de ce que l'on est en train de fustiger. Et là, la dénonciation passe d'abord par l'appropriation de textes, la connaissance de textes en bonne et due forme, de sorte qu'on ait des Congolais avec un mental bien formaté et qui peuvent changer la donne comme ça s'est fait ailleurs dans d'autres pays. Ces questions de discrimination sont des questions générales, universelles, mais c'est en termes de taux. C'est en termes de fléaux que nous déplorons ici en République démocratique du Congo. Et si les autres ont changé, c'est déjà puisque au plan individuel et collectif, il y a cet élan de changement, cet élan de réconsidération des choses qui a élu domicile et qui manque énormément dans notre pays. Et c'est vraiment regrettable pour l'avenir du Congo.
Bien, donc selon ce que vous venez de dire, il faut prendre son courage, être courageux, aller dénoncer, même si on peut vous menacer, vous renvoyer du travail, il faut quand même dénoncer. Et voilà, et le changement pourra venir à partir de par là. Maître Omar Kigalo, vous avez dit que les inspecteurs doivent aller faire le contrôle régulièrement, voir comment les choses se passent au sein de l'entreprise. Mais on a parlé aussi de la discrimination positive, favoriser par exemple lors du recrutement ou de la promotion voilà les femmes, etc. Mais cela peut aussi être mal perçu par les autres collègues au sein de la société. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet, Maître Omar Kigalo?
La discrimination positive peut être vue sous deux angles. Premièrement, sous l'angle des compétences, mais sous l'angle de l'expérience. Je prends les cas de M. Joudi et de M. Omar Kigal, le maître Omar. Si une chaîne internationale veut recruter un journaliste, malgré mon intelligence, si on favorise la candidature de Joudi par rapport à la mienne, ce n'est pas une discrimination. Joudi a plus de compétences, plus de connaissances et d'expérience en journaliste, c'est mieux que moi. Même en matière de traitement, il faut préciser, on n'est pas tous payés de la même manière. Un directeur n'a pas la même rémunération qu'un chef de division, par rapport au chef de service. Là, il s'agit d'une discrimination positive qui tient compte du grade occupé, du travail fait. On voit même dans le football, Messi joue dans la même équipe que Xavi, mais ils n'ont pas le même salaire. Les prestations, les compétences peuvent aussi distinguer. Pour finir, je voudrais que si la solution avait trois piliers, que les premiers soient relatifs à la sensibilisation. Moi, à mon église, par exemple, au-delà des charges que j'ai la charge de la coordination juridique. Il m'arrive d'organiser des séminaires. Par exemple, lorsque je forme le marié, les futurs mariés, je leur dis quelles sont les conditions pour être marié légalement. Les églises peuvent aussi sensibiliser. Les médias comme vous les faites, les partis politiques partout. Des deux, c'est un problème de conscience professionnelle. Monsieur Joly, un droit, il faut pas seulement l'avoir, il faut aussi les connaître. Il faut pas seulement les connaître, il faut aussi le revendiquer. Il faut pas seulement le revendiquer, il faut aussi l'exercer. lorsqu'on est victime d'un traitement impartial, injuste, il faut dénoncer, il faut saisir le juge compétent. Il y a les juges qui existent, qui travaillent, les juges administratifs. Et le troisième pilier, enfin, c'est l'application de la loi, comme je l'ai dit. La loi a établi des personnes appropriées auprès de qui on doit se référer. Il y a en droit trois sortes de recours lorsqu'on est victime de discrimination. Le premier recours s'appelle les recours gracieux. Vous revenez vers l'autorité qui a décidé ou vers l'employeur qui a pris la décision. Vous lui dites, cher employeur, cher patron, je n'apprécie pas la manière dont vous me traitez, c'est illégal. Si au niveau du recours gracieux auprès de l'autorité qui a pris la décision, ça ne marche pas. Il y a les recours hiérarchiques en matière privée. Puisque l'employeur ne veut pas écouter, on saisit l'inspecteur du travail. En matière publique, si c'est un directeur, on voit les CG. Si c'est un CG, on voit le ministre. Si c'est un ministre, on voit le conseil d'État. Et enfin, il y a les recours judiciaires. Lorsque l'autorité ou l'employeur qui vous a pris des mesures injustes ne veut pas s'amender, vous voyez les recours de son chef, ça ne marche pas parce que les lions ne se mangent pas. Vous pouvez saisir les juges pour que vous puissiez être rétabli dans vos droits. Donc, ce sont des antivaleurs, mais c'est joli, qui affaiblissent encore ces pays, qui l'enferment plutôt à les passer. La solution passe par cela. Sensibiliser les travailleurs sur leurs droits et devoirs, car la loi fondamentale dit que le travail est à la fois un droit et un devoir sacré. Des deux, conscientiser les professionnels du travail. L'air dit, faut pas se limiter là à observer. Quand on sait pas dénoncer un mal, c'est qu'on l'adore. Quand on sait pas critiquer un mal, c'est qu'on les préfère. Le juge ne sera pas là dans son bureau en train d'observer les infractions. Il faut les dénoncer. Et enfin, on doit rigoureusement, la loi a dit au niveau de chaque société, il doit avoir des règlements d'entreprise au-delà de la loi. Est-ce que toutes les sociétés en ont? Nous avons adhéré à une convention internationale depuis, je crois, plus de 10 ans. Cette convention a prévu tout. Pour chaque secteur, voilà ce qu'il faut faire. Tenir compte des trois choses. La compétence, la loyauté et la moralité avant de recruter quelqu'un. Alors, est-ce qu'on le respecte, ces trois critères-là qui est l'Organisation internationale du travail a fixé?
D'accord.
Est-ce qu'on le respecte au niveau de nos lois internes? Voilà, Monsieur Jody, la réponse à votre question et ce qui doit être fait pour lutter contre la discrimination en milieu professionnel.
Merci, Maître Marc Gallo. Excellente journée et à la prochaine. On va terminer avec la question de Thomas de Bounia. Bonjour, Thomas.
Bonjour, Monsieur Jody, et bonjour à l'invité.
Quelle est votre question, Thomas?
Face à ces problèmes, parce que les problèmes de l'injustice en milieu professionnel, ça bat vraiment record. Parce que là, j'ai deux questions à poser à l'invité. Quels sont les mécanismes de résolution de ces conflits-là pour faire face à l'injustice en milieu professionnel? Mais aussi la deuxième question, quel est le rôle des autorités gouvernementales et des organismes syndicaux dans la lutte contre l'injustice en milieu professionnel? Parce qu'actuellement, on a des syndicats là, partout à travers le pays, dans beaucoup de domaines là, mais quels peuvent être leurs rôles pour lutter contre l'injustice en milieu professionnel? C'est peut-être ça, mes deux préoccupations.
Merci, merci Thomas. Polydore Tangeli, psychologue de travail. Alors, quels peuvent être les rôles des syndicats, les organisations syndicales dans la lutte contre toute forme de discrimination négative en milieu professionnel?
Bon, je crois la problématique de la discrimination en milieu professionnel doit être comprise plutôt à deux niveaux, au niveau individuel et au niveau collectif. Il y a des efforts à fournir au plan individuel dans le sens de qu'à titre individuel, on puisse connaître sa loi, ses droits, ses devoirs, et en faire bon usage en milieu professionnel. Puisqu'au fait, lorsqu'on vous connaît averti, lorsqu'on vous connaît connaisseur de vos droits et devoirs, vous ne serez pas sujet de manipulation. Et là, il y a un effort à fournir, plutôt que de crier, de revendiquer, mais aussi d'agir en bonne et due forme. Cela appelle à la lecture du texte, à la maîtrise du texte, et à l'usage des droits qui vous sont reconnus. Je crois que Maître a évoqué tout cela.
On peut dire aussi que les syndicats peuvent aussi aider à lutter contre ces genres de discriminations.
Oh, oui, exactement. J'en venais au niveau collectif, au niveau sociétal. L'organisation de la société a mis en place certaines structures, certains dispositifs organisationnels qui peuvent nous aider à agir. Qui peuvent agir à notre place,
qui parlent au nom de personnes qui n'ont pas le courage de le faire. Et là encore, c'est un problème puisque nous avons des syndicats qui sont des syndicats de pacotille, des syndicats qui sont à la poche des employeurs et ça pose problème. Donc, il y a un besoin de revisitation de l'action syndicale, de l'humanisation de l'action syndicale, de sorte qu'elle soit contributive à l'harmonie au sein de l'entreprise. Faut-il encore dire ici que lors des votes des syndicats, la discrimination se fait. Les votes des délégations syndicales, l'élection des délégués syndicaux est généralement axée sur la fibre tribale et là, le virus de la discrimination ronge beaucoup de nos syndicats et cela est à décourager. Les structures sont là, bien sûr, mais il faut leur revitalisation, leur redynamisation. Et je reviens à ce que j'avais dit au départ, que sensibilisation, appropriation du texte, tout ce qu'on peut dire n'aura solution que par un exorcisme collectif. Où il y a un coupeur de ruban qui vient changer le mental congolais. Que nous soyons les Congolais qui ne voyaient pas les différences à l'époque, qui ne demandaient pas à l'autre quel est ta tribu, qui ne voyaient pas la valeur de quelqu'un à travers son nom, à travers sa tribu, à travers son sexe, mais à travers son savoir-faire, à travers son nationalisme, à travers ses compétences, à travers sa loyauté. Et je crois c'est ceux qui me suivent, s'ils s'approprient mes propos, peuvent être constitués le noyau de ceux qui pourront changer le Congo à l'horizon de 2040, pourquoi pas 2030, puisque c'est un réel besoin. Le tribalisme, la politisation, les abus du pouvoir ont suffisamment rongé la République démocratique du Congo et c'est parmi les éléments qui font que nous sommes en train de stagner. Étant donné que le monde professionnel devait être le moteur du
développement. Merci Polydore Tangali. Je rappelle que vous êtes expert en psychologie du travail. Merci d'avoir participé à cette émission pour échanger autour de la discrimination en milieu professionnel. Excellente journée et à la prochaine.
Merci.